Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Michael Ower a disputé 2 Super Bowls dans les années 2010. Il en a même remporté un. Il partait pourtant de loin et a dû surmonter toutes les difficultés possibles et imaginables dans son enfance. Son histoire est de celle dont on fait des films. Hollywood ne s'en est d'ailleurs pas privé.
Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport.
Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues, toujours à hauteur d'homme. Dans cet épisode, il est question d'un destin pas comme les autres, celui de Michael Ower. Le fait que mon histoire se soit bien terminée la rend unique. C'est tout le problème. Elle ne devrait pas être unique. L'histoire de Michael Ower aurait pu ne jamais s'affranchir de sa triste banalité. Pauvreté, violence, déscolarisation, désocialisation. Le gamin du Tennessee et son destin tout tracé avaient l'étoffe du fait divers d'un canard local. Pas d'un conte de fées. Pourtant, ce n'est pas avec une balle dans la tête que Michael Ower a fini. Mais en NFL. Mieux, au Super Bowl, une bague au doigt. Par ricochet, il s'est même mué en personnage hollywoodien. 7 mars 2010, 82e cérémonie des Oscars. The Blind Side, réalisé par John Lee Hancock, est nommé dans 2 catégories phares. Meilleur film et meilleure actrice. Le premier lui échappe, mais Sandra Bullock est consacrée.
And the winner is... Sandra Bullock and the Blind Side.
C'est son interprétation du rôle de Lee Ann Toy qui lui vaut la statuette. The Blind Side retrace l'histoire de Michael Ower. Son enfance à la Dickens dans le Tennessee. La pauvreté, la violence. Mais aussi son ascension grâce au sport et sa relation avec la famille Toy qui va le prendre sous son aile.
Il a été inscrit à 7 établissements différents et il y a une période de 18 mois vers l'âge de 10 ans où il ne semble pas avoir fréquenté du tout l'école.
Croyez-moi, la plupart des jeunes avec son passé n'oseraient même pas s'approcher de cet endroit.
Écoutez, voici Mike Ore. Il est nouveau, alors je compte sur vous pour qu'il se sente le bienvenu.
Une vraie success story, comme les Américains en raffolent. Le film surfe sur les hauteurs du box-office. Une reconnaissance du public, doublée de celle d'une critique globalement élogieuse. Lorsque The Blind Side sort sur les écrans en novembre 2009, Michael Ower a entamé sa carrière en NFL depuis quelques semaines à peine, sous le maillot des Baltimore Ravens. Un rookie pas comme les autres. De ce jour, le voilà propulsé personnage de fiction. Dans son autobiographie, I Beat the Odds, paru en 2012, il raconte
« Je n'ai pas pu aller à la première à New York. Les Ravens étaient au beau milieu de leur saison. » Il y avait un match à préparer, je n'avais pas le luxe de prendre du temps pour aller voir le film.
Il attendra la fin de sa première saison pour vivre cette expérience mi-gratifiante, mi-perturbante. Se découvrir sur un grand écran dans la peau d'un autre. Ower est allé au cinéma avec quelques amis. Il a acheté son ticket. Incognito.
Je suis sorti de la salle avec un sentiment mitigé. Déjà, je comprenais pas pourquoi autant de gens pleuraient. J'avais envie de leur dire, vous comprenez quand même que ça se termine bien. J'ai une super vie, je suis heureux. Ne pleurez pas.
Il a surtout du mal à supporter de voir sa vie transformée en œuvre de fiction. Comme si cette histoire était la sienne sans l'être vraiment. Il concède d'ailleurs qu'il entretient un rapport
un peu schizophrénique
avec The Blind Side. C'est ce qui le poussera à coucher des mots sur une feuille blanche pour raconter sa propre version de sa vie. Michael Jerome Hauer est né le 28 mai 1986. L'image la plus lointaine de son existence, il la situe autour de ses 3 ans. Il déambule avec ses frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs le long de l'autoroute.
Comme souvent, la maison était fermée à clé. Il n'y avait personne. Alors nous marchions pour essayer de trouver un endroit pour dormir.
Son souvenir, trop affaibli par la distance du temps, ne lui dit pas où ils ont échoué ce soir-là. Mais de cette drôle de transhumance, si près de ces centaines de voitures grouillant vers ou depuis le centre-ville de Memphis, il a conservé une vision métaphorique de son enfance.
Essayer d'aller quelque part où la vie serait peut-être meilleure, pendant que le monde tournait à toute vitesse sans se soucier de moi.
La fratrie recomposée atteint la douzaine. De son père, Michael Williams, il ne sait rien, ou si peu. Le bonhomme a vite déserté le domicile conjugal et passé l'essentiel de son temps en prison. C'est d'ailleurs la tôle qui l'a mis sur le chemin de la future mère de Big Mike, Dennis Hauer.
Le frère de ma mère, Gérald, était son co-détenu en cellule. Un jour, pendant une permission, il est passé voir Gérald pour lui dire bonjour. Dennis était là. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
Le jeune Michael peut compter sur les doigts d'une main les rencontres avec son père. Une fois, il lui a collé une beigne. Il ne sait plus pourquoi. Une autre, il lui a donné quelques billets. Pour un peu, il se sentirait chanceux.
Au moins, moi, je l'ai connu. Certains de mes demi-frères ignorent qui les avait conçus.
Un jour, au lycée, il apprend que Michael Williams a été tué en prison. Malgré la maigreur du lien, cette annonce le secoue.
Il n'avait jamais été vraiment là, mais je ne peux pas nier le lien qui m'unit à lui, même si je ne l'ai jamais appelé papa. Pour ça, il faut plus que quelques visites et une poignée de dollars.
Le monde se divise en 2 catégories. Il y a ceux qui mangent et ceux qui ont faim.
Nous étions souvent dans la seconde.
Car pour ajouter au carnage du panorama familial, ce père tolard, absent et bientôt mort, s'accompagne d'une mère laminée par son addiction à la drogue. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Marcus, l'aîné, arrivé 8 ans avant Michael, endosse tant bien que mal les rôles du grand frère et de père de substitution. Il y a Maldon. Dennis est né dans le ghetto, n'en est jamais sorti. Elle est tombée dans la drogue et ne s'en est pas davantage extirpée. D'elle, il a hérité de cette carrure épaisse. Quand il l'évoque, c'est avec un mélange de colère et d'affection. Comme si, parfois, il s'en voulait de l'aimer autant. Dans son livre, il avoue
« Je ne connais pas grand-chose de son passé. Dans quelle école est-elle allée? À quoi a ressemblé son enfance? Elle ne parlait pas de ces choses-là. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était et qu'elle est toujours une des dames les plus gentilles que vous pourrez rencontrer dans votre vie, quand elle est clean. »
L'instabilité est le maître mot de ses premières années. Les enfants, trop nombreux pour être réunis sous le même toit, sont le plus souvent séparés. Michael Hauer passe plusieurs mois chez sa grand-mère maternelle, Adeline. Peut-être son pire souvenir.
Une femme d'une méchanceté et d'une saleté inimaginables.
À 6 ans, il revient vivre avec sa mère et 8 de ses frères et sœurs, dans un taudis de 40 mètres carrés, au sud de Memphis.
Une vraie maison à nous.
Quand même, selon ses mots. Presque une victoire, vu le contexte. Mais un taudis quand même. Il n'y a qu'une chambre dans laquelle toute la marmaille se masse pour dormir sur des matelas de fortune. Le plus chanceux hérite du canapé-lit dans le salon, sur le mode du premier arrivé, premier servi. Cette anormalité lui tient de normes. Ce n'est que bien plus tard qu'il en percevra l'absurdité. Idem pour ses loisirs. Hauer admet
« Tous nos passe-temps consistaient à briser les règles. »
Ou, selon sa formule proche de l'oxymore,
« Les emmerdements étaient notre principale source de distraction. »
Braquer des voitures, casser des vitres pour rentrer chez les gens, chaparder. Michael, le plus jeune, observe plus qu'il n'agit. Mais oui, à 7 ans, alors qu'il a déjà redoublé à 2 reprises et changé 6 fois d'école, il maîtrise l'art d'échapper aux rondes de police, sans parler des balles qui sifflent régulièrement dans la rue. Toujours à 7 ans, sa vie bascule. Quelqu'un vient le chercher. Un monsieur qu'il n'a jamais vu. Michael n'a jamais su qui avait prévenu les services sociaux.
Je me demande parfois si c'est pas ma mère qui a fini par les appeler. Parce qu'elle avait réalisé qu'elle ne pouvait plus s'occuper de nous. Je sais qu'elle nous aimait et qu'elle voulait nous garder. Mais peut-être pensait-elle préférable pour nous d'être dans d'autres mains. J'ai jamais osé lui poser la question.
Le voilà arraché à sa famille. Une famille chaotique. Une vie nuisible. Mais l'enfant le vit comme une déchirure. À partir de là, Michael Hauer va naviguer de foyer en foyer, et de familles d'accueil en familles d'accueil dans le cadre du programme Foster Care, en charge des enfants comme lui. Ils sont environ 500 000 aux États-Unis dans cette situation. La vie ne devient pas rose, mais ils tombent dans des familles de bonne volonté et le plus souvent aimantes. Parfois, pour de brèves périodes, il retourne vivre chez sa mère. Mais son alternance entre sevrage et replongée dans le crack interdit des retrouvailles durables. C'est le sport qui va servir d'échappatoire à Big Mike. La révélation, il l'a au printemps 1993, en regardant les finales NBA à la télévision chez son cousin. Il a 7 ans.
Ça a changé ma vie. Tout au long des années suivantes, j'aurai devant moi cet objectif, auquel je m'accrocherai en permanence.
Sur le duel final entre les Bulls de Michael Jordan et les Suns de Charles Barkley, son regard d'enfant est intarissable.
Une série dingue. Depuis, je crois n'avoir rien vu d'aussi excitant. Les Bulls visaient leur troisième titre de suite, mais les Suns se battaient et revenaient sans arrêt. J'étais totalement happé par l'intensité du duel entre ces deux équipes incroyables.
Michael a même un souvenir quasi physique de ces 6 matchs. En ce début de mois de juin, le soleil cogne déjà sur Memphis. La clim, on ne connaît pas dans le ghetto.
J'étais déjà costaud à l'époque, et dans la maison, il faisait très chaud. Mais j'avais l'impression que si je transpirais, c'est parce que je me dépensais autant que si j'avais été sur le terrain avec un maillot des Bulls.
Tout au long de l'été, fasciné, il occupe ses journées à se repasser dans sa tête le film de ses matchs.
Le sport était entré dans ma vie, et il n'était pas question qu'il en sorte.
C'est une promesse qu'il se fait, et pas une promesse en l'air. Des gamins qui se rêvent en futur Michael Jordan, il en pousse à tous les coins de rue aux États-Unis dans cette première moitié des années 90. Mais il convient de distinguer ceux qui rêvent de devenir une star et ceux déterminés à se dédier à fond à ce rêve. Michael Ower est de ceux-là. Le basket peuple donc ses jours et ses nuits. Plutôt doué de son propre aveu et plutôt rapide et mobile en dépit de sa corpulence, au lycée en division 2 de l'État, il tournait tout de même à 22 points et 10 rebonds par match. Il ne se tournera que tardivement vers le football. Pour sortir de son bourbier, Michael Ower doit attendre l'adolescence. Et deux mains tendues par deux familles. Les Henderson d'abord. Tony, alias Big Tony, est son entraîneur de basket. Et son fils, Steve, devient son meilleur ami. C'est grâce à Tony qu'il va intégrer Briarcrest, un lycée privé chrétien, où Steve vient d'être admis. Big Mike, plombé par des résultats scolaires catastrophiques, met les bouchées doubles lors d'une année de rattrapage pour rejoindre Briarcrest. En dépit de son bagage insuffisant, il bénéficie d'un programme spécial destiné aux athlètes à fort potentiel. Seule condition, 2 heures de cours supplémentaires chaque soir pour se remettre à niveau. Mais Ower est prêt à tout. De misérable, sa condition se veut désormais paradoxale. Car si au plan scolaire, son entrée dans ce lycée huppé lui ouvre des perspectives, il n'a toujours aucune stabilité dans sa vie quand il franchit les grilles de Briarcrest après les cours.
J'avais quelques plans. Je dormais parfois chez les Henderson ou chez des amis. De temps en temps, dans la famille Foster. Mais j'étais ce qu'il faut appeler un SDF. Je n'en parlais à personne. Je leur faisais tous croire que j'avais une maison parce que j'avais honte. Mais j'étais à la rue.
Trouver des familles d'accueil à l'adolescence s'avère complexe. Les demandeurs ne se bousculent pas au portillon. Trop de problèmes à gérer. Le pire, pour Michael, ce sont les vacances scolaires. Source d'excitation pour l'ado lambda, mais d'angoisse pour lui. Lycée fermé, pas d'entraînement. Les potes absents. Conséquence, une galère décuplée pour trouver où se poser, où manger, où dormir. Les congés le renvoient à sa propre solitude et à la fragilité de sa condition. En 2003, pendant son année de junior au lycée, l'équivalent de la classe de première en France, Ower se rend un matin au gymnase du lycée pour s'entraîner. Mais celui-ci est fermé. Mike réalise alors que l'on est en plein Thanksgiving. Il se maudit d'avoir oublié. Le froid rougit les joues, le vent les gifle. Il vient de marcher 5 km. Tout ça sent la journée moisie. Elle ne sera pas si mauvaise. Une grosse BMW passe devant le gymnase. Elle ralentit. Quand la vitre se baisse, Michael reconnaît Sean Twohy. Il est entraîneur bénévole à Briarcrest pour les équipes de basket et d'athlétisme. Ils ont déjà discuté occasionnellement.
Michael se souvient?
À ses côtés, il y avait une petite femme, très bruyante au téléphone.
Lee Han Tuoi. Le couple propose au jeune homme de le ramener d'où il vient. De fil en aiguille, il va s'intéresser de près à ce gamin timide, presque secret, mais attachant et volontaire. Les Tuoi perçoivent chez lui un farouche désir de s'en sortir. L'intéressé confirme.
J'étais déterminé à faire quelque chose de moi-même. Avec mon gabarit, j'aurais pu espérer finir garde du corps d'un chef de gang, mais je ne voulais pas de cette vie. Je ne savais pas encore comment j'allais m'en tirer, mais dans mon esprit, il n'y avait pas d'autre option. J'allais trouver un moyen de sortir du ghetto d'une manière ou d'une autre. L'échec n'était pas une option pour moi.
Les Tuoi l'ont ressenti. Lee Han l'emmène acheter des vêtements neufs et à sa taille. Michael grandit vite. À 17 ans, il dépasse le 1m90 et les 130 kilos. Deux semaines après Thanksgiving, les Tuoi l'invitent à dîner. Howard n'a jamais mis les pieds dans une maison comme celle-ci. La famille Tuoi vit plus que confortablement. Sean, businessman averti, a investi avec succès dans la restauration rapide. Il possède plus de 80 restaurants de fast-food à Memphis. Lee Han, elle, est une architecte d'intérieur très demandée. Ils ont deux enfants, Sean Jr., 11 ans, et Collins, né la même année que Michael, en 1986. Elle aussi est scolarisée à Briarcrest. Lycéenne brillante, jolie et perchiste de très bon niveau, elle est une des coqueluches de l'école. C'est une famille comme Michael Hower n'en a jamais connue. Un soir de janvier 2004, après avoir mangé chez eux, Michael est raccompagné par Sean. Dans la BM, il lui avoue qu'il n'a pas d'endroit où dormir. Demi-tour. Il passera la nuit sur le canapé-lit du salon.
Et comme ça, les Tuoi sont entrés dans ma rotation nocturne. Je dormais chez eux une ou deux fois par semaine, en faisant tout pour être un bon invité. Je pliais mes draps le matin, je rangeais tout ce que je pouvais.
Parce qu'il n'avait toujours compté que sur lui-même, demander ou recevoir de l'aide n'avait rien de naturel pour lui. Mais Big Mike accepte cette main tendue. Peut-être parce que, spontanément, chacun trouve d'emblée la bonne distance. Les parents comme les enfants. Lui, qui avait toujours pris soin de ne pas s'attacher aux autres gamins dans ses diverses familles d'accueil, parce qu'il savait que sa présence ne serait que provisoire dans le foyer, noue très vite une relation forte avec Collins et Sean Jr. Et comme ça, Hower finit par se sentir chez lui.
Plus je passais de temps avec eux, plus je sentais que j'avais trouvé une nouvelle maison. Une maison un peu dingue, avec des gens qui couraient dans tous les sens, entre les copains de Collins qui déboulaient de tous les côtés, et le boulot très prenant de Sean et de Liane. Mais c'était une folie confortable. Ils ne me traitaient pas comme si j'étais fragile ou comme une créature étrange qu'ils devaient chercher à comprendre avant de pouvoir être proche de moi. Ils me traitaient comme ils traitaient n'importe qui d'autre. Et ça m'a aidé à me sentir comme chez moi.
Sean et Lee Han Tuoi ont compris qu'ils pouvaient offrir à Michael ce qui lui manquait dans sa quête de réussite. De la stabilité et des moyens.
Ils percevaient ce que j'essayais d'accomplir et le fait que je n'avais simplement pas les outils nécessaires. J'étais pas bête, j'étais pas fainéant. Je voulais travailler dur, mais je savais pas par où commencer. J'étais un gamin qui voulait se sentir aimé et soutenu. L'ambition n'était pas un modèle auquel j'avais été habitué dans ma vie. Alors j'essayais d'ouvrir des portes et je savais pas comment. Les Tuoi m'ont aidé à les pousser.
Il lui paye notamment un tuteur, chargé 20 heures par semaine, de le faire bûcher pour combler ses lacunes scolaires. Ce sera Sue Mitchell, alias Miss Sue. À elle aussi, Hower doit une fière chandelle. Elle sera son sésame pour l'université. À l'été 2004, juste après son 18e anniversaire, il s'installe définitivement chez les Tuoi.
Pour la première fois, j'avais trouvé non pas une famille d'accueil, mais une famille tout court. Ils m'ont traité comme un membre à part entière, pas comme une bouche supplémentaire à nourrir ou un investissement pour toucher un chèque à la fin du mois. Chaque soir, Lee Han glissait un « je t'aime » quand les enfants allaient se coucher. Et elle me le disait aussi. Et j'ai commencé à me dire qu'elle le pensait vraiment.
Parfois, Lee Han l'agace. Sean Jr. le fatigue. Collins, toujours en retard, le rend dingue. Lui aussi peut les déstabiliser. Mais il aime ce qu'il nomme
ses petits accros. Ils m'ont fait comprendre que nous étions une vraie famille. Je pouvais être contrarié ou dérangé parfois. Et ils pouvaient l'être avec moi aussi de temps à autre. Nous n'avions pas à nous soucier d'être parfaits les uns envers les autres tout le temps. Parce que je n'étais pas un invité. C'était ma maison aussi.
En juillet 2005, Sean et Lee Han Tuoi finalisent ce processus familial en adoptant officiellement Michael Hower. S'il ne coupera jamais les ponts avec sa mère biologique, il se sent à sa place en devenant, aux yeux des Tuoi, un fils ou un frère. Cette fois, sa vie est sur des rails enviables. D'autant qu'au même moment, il s'apprête à entrer à l'université. Hauer a connu une progression si fulgurante sur les terrains que plusieurs universités de renom se l'arrachent en dépit de son parcours scolaire laborieux. Auburn, Alabama, LSU souhaitent le recruter. Il opte finalement pour Ole Miss, la grande fac du Mississippi, où Lee Ann et Sean ont étudié. Lors de ses deux dernières années au lycée, il s'est consacré à fond au football, délaissant le basket. Joueur de ligne offensive, il occupe le poste de left tackle. Un rôle clé, puisqu'il a la charge de protéger le quarterback sur son côté aveugle, the blind side. À la fois puissant et mobile, il a toutes les qualités naturelles pour s'y épanouir. Hollywood le présentera comme un analphabète du playbook, qui n'entendait rien aux subtilités de son sport ou de son poste. Pour un peu, Lee Ann Toy, non contente de l'avoir recueilli, lui aurait appris les bases de son futur métier. C'est un des aspects du film avec lequel Michael Hauer aura le plus de mal.
Il m'a montré comme un débile qui ne comprenait rien au football, alors que j'avais étudié ce jeu en profondeur. C'était pas moi.
Plus rien n'arrêtera l'ascension du jeune homme. Pendant ses 4 années à Ole Miss, il devient un des meilleurs joueurs du pays à son poste. Au point qu'en 2009, son nom circule pour figurer parmi les 10 premiers sélectionnés lors de la draft. Le 25 avril, Michael compte ainsi parmi les 9 joueurs invités au Radio City Music Hall de New York, où se tient la draft. Même s'il a toujours su ce qu'il a voulu, il se pince d'être aux côtés de Matthew Stafford, le quarterback de Georgia, dont tout le monde sait qu'il sera choisi en première position. Eugene Monroe, Jason Smith ou Michael Crabtree. Dans la salle d'attente, où les futurs rookies guettent fébrilement l'appel d'une des 32 franchises, Big Mike a réuni son clan. Les Troy, évidemment, au grand complet. Mais aussi Miss Sue et son frère aîné, Marcus. Les minutes passent, les noms s'égrènent. Lui attend. 2 semaines avant la draft, une rumeur a commencé à circuler, alimentée par une poignée de journalistes influents, dont Todd McShay, un des monsieur draft d'ESPN.
Caractère problème.
Le joueur est prometteur, mais le garçon, potentiellement un nid à problème. Hauer n'a jamais su d'où ces bruits provenaient, ni comment ils avaient circulé. Avant d'être un film, The Blind Side fut un livre, sorti en 2006. L'histoire de Michael Hauer était un des sujets abordés. Certaines franchises ont-elles eu peur au dernier moment de se lier à un jeune à l'enfance si instable. Des années plus tard, il en rigolera.
J'avais décidé de laisser couler, mais Lee Ann était furieuse. Elle voulait casser la gueule à McShay.
Mais dans la draft room, désormais vide puisque tous les autres joueurs présents ont été appelés, il cède à la panique. Il attend désormais depuis 2h30. Ce petit calvaire prend fin quand le téléphone de son agent sonne enfin. À l'autre bout, John Harbaugh, l'entraîneur des Baltimore Ravens. La franchise du Maryland veut tellement recruter Hauer qu'elle a tradé avec New England pour grimper de 3 places. Michael Jerome Hauer devient le 23e choix de la draft 2009.
These are the Baltimore Ravens who are making the selection at 23. The New England Patriots have traded the 23rd pick to the Baltimore Ravens. And with the 23rd pick in the 2009 NFL draft, the Baltimore Ravens select Michael Hauer, offensive tackle, Mississippi.
Dans sa toute première interview de futur joueur NFL, il lâche.
Ce fut un long et difficile chemin. Je m'étais fixé des objectifs très élevés qui pouvaient paraître fous. Mais je l'ai fait. Je suis là.
Il ne peut s'empêcher de voir dans sa terre d'accueil professionnel un savoureux clin d'œil. Les Ravens sont la seule franchise de la NFL nommée d'après un poème. Celui d'Edgar Allan Poe, The Raven. Dans I Beat the Odds, il s'amuse de cela.
Pour moi qui avais tant ramé à l'école, notamment en anglais, finir dans la seule équipe ayant une origine littéraire.
À la fois héros et victime de sa propre histoire, Michael Hauer aura du mal à être jugé comme n'importe quel autre joueur. Ce sera vrai de son année de rookie à la fin de sa carrière en NFL en 2017, et il l'a assez mal vécu, comme il l'expliquait en 2015 sur ESPN.
Le film a pris le pas sur la réalité. Pire, c'est tout juste si je ne devais pas ma carrière en NFL au succès du film et non à mon travail, à mes sacrifices. Pareil pour la façon dont je suis jugé. Certains disent que j'ai fait un bide, Mais tout ça est biaisé par des considérations qui n'ont rien à voir avec le jeu lui-même.
Un jour, alors qu'après un match, un journaliste lui pose une question sur The Blind Side, avant d'évoquer la rencontre elle-même, il craque.
Ne me parlez plus de ce film. Je n'aime pas ce film.
Lee Ann Toy expliquera sur NBC en 2016.
La vérité, c'est que Michael aime le film, mais il déteste l'attention qu'il fait porter sur lui. L'immense majorité des gens dans le pays ne sont pas capables de citer le nom d'un joueur de ligne offensive. Ce sont des gens de l'ombre. Michael, lui, a dû composer avec une attention très forte en permanence.
Lee Ann Toy sait de quoi elle parle. Elle-même s'est parfois lassée d'être résumée à la mère dans The Blind Side. La carrière de Big Mike a connu des hauts et des bas. Après 5 années à Baltimore, il s'est engagé en 2014 à Tennessee. Infortuné retour au bercail. Blessé, il est coupé par les Titans, puis rebondit à Carolina grâce au lobbying de Cam Newton, le quarterback vedette des Panthers. Il lui écrira par SMS
« Je ne veux pas que tu nous rejoignes. J'ai besoin que tu nous rejoignes. »
Sa première saison en Caroline sera celle du retour au premier plan et au Super Bowl perdu face à Denver. La NFL a connu des bides plus retentissants que le sien. Son heure de gloire, collective et intime, Michael Ower l'avait vécu le 3 février 2013, lors du 47e Super Bowl. Au Superdrome de la Nouvelle-Orléans, Baltimore s'impose face aux San Francisco 49ers pour décrocher leur deuxième trophée Vince Lombardi. À 26 ans, le tackle des Ravens entre au panthéon de son sport. Ce soir-là, la réalité et la fiction s'entremêlent. Sandra Bullock est dans les tribunes. Son fils, adoptif lui aussi, porte un maillot frappé du nom de Michael Ower. Les Toy sont tous là. Après le match, Lee Ann se ferait un chemin jusque dans le vestiaire. Une image a alors fait le tour du pays. Elle, en larmes, dans les bras de son Big Baby, comme elle l'appelle. Son fils avait parachevé sa revanche sur cette enfance dont elle ignorait tout, moins de 10 ans plus tôt.
Cet épisode des Grands Récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Romain Redon et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.